RMC, 9h midi.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
1, 2, 3, 4.
J'ai les grandes gueules en direct sur RMC et RMC Story. Les grandes gueules qui tout au long de la semaine et aujourd'hui encore vous ont offert des vacances bel en bras. Vous pouvez gagner encore le séjour de 2000 euros premium, tout compris dans un des 45 clubs vacances hôtels bel en bras. Vous choisissez votre destination, vous avez envie d'aller à la montagne pour échapper un peu à la chaleur, pas de problème, il y a ce qu'il faut. Par exemple, la montagne, vous avez les Arcs, vous avez Tignes, vous avez Aboria, vous avez les deux Alpes. Vous voulez aller à la mer, vous avez la presqu'île de Gien, la Grande Motte, Borgo-Pinette ou encore Sport Camargue, Osgore, Trégastel, Morgade, Guidel et la campagne. Vous pouvez aller dans le Luberon ou dans le Verdon. Ça, c'est pour vous. Il suffit d'envoyer vacances par SMS au 732-16. Vacances par SMS au 732-16. C'est tout compris, c'est premium. Vous êtes chouchouté, choyé. Le tirage au sort, il est tout à l'heure à 11h15. À vous de jouer, à vous de gagner les vacances bel en bras. Parlons de la canicule. En fait, le gouvernement a déclenché un plan inédit. Si vous vous souvenez, lorsqu'il y avait des catastrophes naturelles dans les années 70-80, on déclenchait le plan ORSEC. ORSEC voulant dire Organisation des Secours. Et bien là, on a déclenché ce plan inédit face à ces jours de chaleur, là, cette troisième canicule, qui est le plan ORSEC canicule.
Oui, ben on aime bien inventer des plans en France. C'est aussi beaucoup de communication pour montrer du côté du gouvernement et des autorités qu'on agit face à cette troisième canicule. Alors la porte-parole du gouvernement, Maud Bréjon, a détaillé ce plan ORSEC chaleur extrême qui n'existait pas par le passé. Elle dit c'est en fait tenir compte du retour d'expérience des dernières vagues, notamment que les personnes les plus vulnérables, celles qui sont seules, souvent en ville, souvent âgées, subissent davantage de surmortalité que le reste de la population. Bon, une fois que tu as dit ça, en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il y a 24 départements qui rentrent en rouge, là, à partir de samedi. Il va faire donc très très chaud pour ce long week-end du 14 juillet. Alors, il va faire d'ailleurs plus chaud dans l'ouest et le nord et le centre que sur le pourtour méditerranéen, où on sera en dessous des 35 degrés. On voit que la chaleur s'est déplacée et Météo France nous dit que cette troisième vague de chaleur va continuer au moins jusqu'au 14 juillet, sans doute un peu au-delà. Par ailleurs, le gouvernement dit que les 6000 climatiseurs, enfin il y avait des climatiseurs livrés, 6000 sont déjà arrivés dans les hôpitaux. Là, on n'a pas anticipé. Là, on essaie de rattraper un retard.
Bon,
est-ce que vous êtes rassuré par ce plan ORSEC chaleur extrême,
Laura?
Non, moi je pense qu'ils viennent, enfin là, Madame Bréjon et tout cela viennent juste justifier de leur salaire, tout simplement. Je pense pas que les hôpitaux, que les sapeurs-pompiers, que le SAMU, que les urgentistes, que les familles ont attendu ce miraculeux plan, ingénieux plan pour s'organiser. Enfin,
C'est de la com.
Mais complètement, c'est histoire de dire on a fait quelque chose, ça détourne sur les autres sujets qui sont en train de se passer, comme par exemple le fait qu'on peut se poser la question qu'il y a un droit constitutionnel qui a été bafoué, qu'on décide de ne plus faire aucune commission d'enquête jusqu'au printemps. Voilà, c'est une manière très intelligente et astucieuse de détourner le truc. Je pense que les hôpitaux, que le SAMU, que les EHPAD, peu importe les structures, auraient préféré que on prévoit, mais apparemment en France, sur n'importe quel sujet, peu importe le sujet qu'on prend, prévoir, ils ne savent pas faire. C'est dommage parce que gouverner, c'est prévoir.
Bruno ?
Moi, je trouve que c'est quand même pas la première année où on a une canicule comme ça.
Là, c'est la première fois qu'on a trois canicules.
Trois jours à la suite. Je suis d'accord avec toi, trois fois à la suite. Moi, depuis que je suis arrivé à Paris, je suis revenu à Paris en 2006. Depuis 2006, chaque année au mois de juillet, j'ai ramassé. Et en plus avec les transports et tout, donc je me rappelle bien chaque fois. Et donc en fait, moi je pense que ça fait quand même des années qu'on pourrait anticiper. Je pense que c'est quand même pas compliqué de prévoir. Tu sais, ça me fait penser un peu aux masques et aux gants pour le Covid. C'est-à-dire que en fait, soi-disant, on avait un stock parce qu'on avait l'histoire de la grippe aviaire, on avait un stock monstrueux de trucs. Et puis, le jour que ça arrivait, merde, ils sont tous périmés. Bah pourquoi là on devrait pas acheter, tu vois, depuis des années des clims et que chaque année tu les ressortes et puis quand elles sont un peu moins bien tu les renouvelles et tout. Non, c'est que avec cette espèce de politique de devant, tu vois, faut attendre qu'il y ait un incident
pour construire un hôpital avec la clim.
Ouais, déjà aussi ça serait bien. Et moi je trouve que là on est vraiment en train de notre société est changée, notre monde change en fait. Des canicules comme ça, tu vas en avoir de plus en plus. Et moi je pense que tu en auras de plus en plus entre mai et juillet et que août ça va faire comme depuis plusieurs années, ça va être à moitié dégueulasse. Je te rappelle les JO, il avait pas fait un temps de ouf pendant tous les JO, il avait fait un temps moyen normal, tu vois, il y a encore un peu moyen bas.
Bah, il pleuvait le jour de la cérémonie de
l'ouverture. Ah oui, rappelle-toi, il pleuvait un truc de ouf. Donc en fait, moi je pense qu'aujourd'hui, il va falloir qu'on adapte notre société à cette nouvelle évolution du temps et du climat. Et donc en fait, bah voilà, il va falloir revégétaliser, comme on dit, bah, voilà, changer l'urbanisme, revégétaliser. Et puis bah, peut-être à commencer à prévoir.
C'est un week-end quand même compliqué parce que si tu veux prendre un train, t'es pas sûr de l'avoir parce que Jean Castex lui-même a dit que tous les trains.
Oui, mais en train de rouler les trains en ce moment, je pense que.
Ouais. Bah, il y a eu quelques trains annulés, etc.
Oui,
bah, deux. Sur la route, effectivement, il fait très chaud, donc il faut quand même prendre ses précautions. Trois, si tu vas pas au bord de l'eau, bah, tu vas avoir quand même très très chaud pour ce week-end du 14 juillet.
Moi, je suis fasciné par la communication politique. À chaque fois, vraiment, c'est ça que je retiens sur chaque truc. On a les mêmes éléments de langage et on n'est pas lassé. On a, sur décision du Premier ministre, nous avons décidé de déclencher le plan fait chaud. L'ensemble des préfets a été destinataire de la circulaire pour le plan fait chaud. Si ça devait continuer, nous mettrons en place le numéro vert. Et en fait, il n'y a plus que ça dans notre pays. Il n'y a plus que ça. Il n'y a pas de décision politique, il n'y a pas le stock stratégique de climatiseurs de Bruno Poncet. Il ne se passe rien, ça va se répéter l'été prochain, et oui, on assistera aux mêmes images. Je suis persuadé qu'on peut passer les mêmes images de télé.
Faudra se dire que ce ne sont pas les mêmes que le gouvernement.
Peut-être que ça sera toujours Maud Bréjon, la porte-parole du gouvernement.
Ce ne serait pas une bonne nouvelle pour nous.
Et le vrai sujet, c'est comment notre pays est devenu incapable de prendre les choses en main. Et qu'il n'y a plus que de la communication politique. Moi, sur tous les plans. Voilà,
c'est comme la multiplication de ces réunions, de cette cellule de crise aussi.
Ah oui. Ça, une cellule de crise est réunie sur décision du Premier ministre.
Une cellule interministérielle.
Interministérielle.
Ah, c'est important, c'est
interministérielle.
Se réunit et pourra se réunir
un plan inédit
à tout moment.
Tu vois d'ailleurs les images de la cellule de crise. On voit une table immense avec l'ensemble des ministres et des secrétaires d'État qui sont réunis. Il y a les huissiers là qui viennent de tirer. Je vous jure,
c'est vrai. Constater qu'il fait très chaud.
Les huissiers qui viennent de tirer la chaise du Premier ministre et qui est arrivé, qui s'est assis, qui a levé le bras en disant mesdames et messieurs, nous pouvons commencer cette réunion. Et tu sais,
il faut avoir un air grave dans ce cas-là.
Oui, bien sûr.
Parce que la salle est climatisée.
Alors, dans trois jours, il enlèvera la cravate pour montrer que vraiment, là, on a chaud.
Bah, Darmanin l'avait déjà retiré, là. Tu vois,
il est déjà dans la communication de demain. C'est très puissant.
Oui, mais vous savez qu'il y a un traumatisme. C'est la première canicule de 2003. Ouais,
Jean-François Mathy.
Et la fameuse chemisette de Jean-François Mathy, ministre de la Santé, qui était en vacances et qui sous-estimait ce qui se passait dans les hôpitaux et dans les morgues. Donc là, depuis, on a tellement peur de ce procès en inaction que on mise tout sur ces cellules de crise, ces plans hors sec, etc. Et c'est vrai qu'à côté, c'est un décalage par rapport à des chambres d'hôpitaux à 35 degrés.
Parce que je repensais à l'infirmière, tu sais, l'auxiliaire de vie que nous avions hier, qui nous disait qu'il avait fait jusqu'à 40 degrés dans certains chambres d'hôpitaux. Donc t'as le décalage entre la réunion où tout le monde a son dossier bleu sur lequel il est écrit ministère, tu sais.
Fait chaud.
Et devant, tu as le petit truc en plastique sur lequel il écrit le nom du ministre, parce que de toute façon, quand tu regardes, tu sais pas qui c'est.
Parce que eux-mêmes,
même entre collègues.
Même ils disent, ah tiens, c'est lui.
Alors, Ludo veut intervenir dans les GG. Il est en Vendée, du côté de Fontenay-le-Comte. Bonjour, Ludo.
Bonjour.
Quelle température vous avez depuis plusieurs jours en Vendée, là, en ce moment, dites-moi.
Aujourd'hui, il est prévu entre 38 et 40. Ouais. Et ça va durer les jours à venir. C'est comme ça depuis mai, en fait. Hein.
Vous êtes en appartement ou vous êtes en maison, Ludo?
Ouais, je suis en appartement au deuxième étage, sous toit, sans volet. Donc, on se débrouille comme on peut.
Oula,
j'ai les couvertures de survie aux fenêtres, les rideaux thermiques, les ventilateurs à fond, et puis on essaye de... Et cette nuit, à 2h du matin, j'avais 30 degrés dehors encore.
Pourquoi vous n'avez pas de volet? Parce que c'est une construction récente, c'est pour ça?
Non, c'est pas prévu. Quand j'ai emménagé, il n'y avait pas de volet. Et puis, non, c'est un ancien bâtiment avant 1949.
D'accord, ok. Et donc, la copropriété ne veut pas faire installer de store ou de volet?
C'est déjà compliqué, déjà, pour faire changer une ampoule dans les parties communes.
C'est
alors,
Oui, quand il s'agit de changer les boîtes aux lettres, ça vire à la guerre en général.
Parce que cette canicule, malheureusement, elle va se reproduire sans doute l'année prochaine. Qu'est-ce que vous comptez faire?
Ben moi, à la base, j'habitais en Bourgogne, donc j'étais venu pour me rapprocher du frais côté Atlantique, là, et je me suis fait un peu avoir là pour le coup. Là.
Ouais, c'est sûr, parce que c'est sur l'Ouest qui fait le plus chaud là.
Du coup, est-ce que c'est en train de gâcher votre quotidien ces canicules à répétition? Parce que j'imagine que pour l'organisme, c'est compliqué, c'est difficile, non, Ludo?
Ah ouais, ouais. Pourtant, j'ai 43 ans, je suis en bonne santé, mais ça commence à être difficile. Là, on a eu quelques jours de répit en mai, après. Dizaine de jours de répit suite à la canicule de juin, qui s'est reparti derrière dans la foulée, quoi.
Mmh. Donc, comment vous adaptez justement entre chaque épisode, on va dire, Ludo?
Eh ben, je cherche des solutions pour rafraîchir au mieux le logement. Donc, l'IA m'a pas mal aidé quand même.
Mmh.
Donc, j'ai trouvé des solutions astucieuses quand même. Comme j'ai appris à utiliser le fonctionnement d'un ventilateur, à le diriger vers la fenêtre.
Ouais. Ah, il faut pousser l'air chaud dehors.
Ouais.
Ouais. L'extraction, ouais. D'accord. Et en fait, la dépression du ventilateur, c'est un appel d'air frais à l'extérieur.
D'accord. Ok.
Ouais, c'est un petit truc qui a été donné.
Donc, moi, j'ai ressorti le brumisateur, la petite bombe qui projette d'eau. Ça marche très bien.
Hein.
Ouais, ça marche très bien. En fait, ça veut dire que Ludo, aujourd'hui, le décalage, il est entre vous au quotidien qui cherchez le système D, et puis quand vous voyez les images de la réunion interministérielle, ça vous fait doucement marrer, quoi, en fait, j'imagine.
Ouais, non, mais j'attends même pas après eux, en fait, hein, les solutions, je les cherche moi.
Chacun zéro.
Gouvernement pour avoir des solutions, je m'en sors pas.
Hein. Surtout qu'ils nous expliquent comment boire, donc.
Non mais c'est vrai, t'as raison. On nous donne on nous donne des petits conseils à la mort moelle neuve où finalement
on les
connaît.
Mais c'est ça qui va sortir de cette réunion.
Alors que ce que l'on attendait depuis des années, c'était effectivement d'avoir plutôt des solutions pour les hôpitaux, pour les aliments,
pour vivre. Mais est-ce que t'as entendu notamment sur certaines radios le plan canicule, ce que tu entends du ministère de la Santé? Mettez-vous au frais. Ne sortez pas quand il fait chaud.
Mais ah bah, je veux bien me mettre au frais. Moi, je veux bien me mettre au frais. Hein.
Ok.
Sauf qu'il fait aussi chaud dehors qu'à la.
Comment tu peux attendre de décisions de personnes qui, depuis peut-être le début de leurs études, ne vivent que dans des endroits où ils sont dans un entre-soi avec de la clim, avec de la moquette épaisse et machin. Si au gouvernement, t'avais un mec qui avait charbonné dans une usine de caoutchouc pendant des années et puis qu'un jour il se retrouve à faire de la politique, le mec il dit non, mais attendez les gars, si t'es dans le gouvernement, t'avais une infirmière qui avait passé sa vie dans des hôpitaux, il fait super chaud et qui a dit non, mais à un moment donné, faut qu'on fasse quelque chose.
Là,
mais on a que des gens qui vivent dans la clim.
Mais ils sont contents de se retrouver.
Oui.
On voit les images sur les chiffres.
Bon courage au quotidien, Ludo. Merci d'avoir
été. Merci d'avoir été. Salut, Ludo. Tous les jours et c'est un plaisir de vous avoir.
Merci, Ludo. Bonne journée à vous.
Il y a eu un relevé de température dans une cuisine parisienne, d'un chef de cuisine, 72 degrés.
Mais donc là, effectivement, c'est plus,
dans le four.
Ta vie est en danger là.
Le restaurant était fermé, mais juste avec les machines, les frigos qui tournent, etc. Ils sont allés mettre le thermostat.
Ouais,
70 degrés.
Mais tu vois, Bruno, tu dis on a des gens qui ont grandi ou qui ont évolué dans les salons moquettés et climatisés. Bah, c'est vrai, c'est pas vrai, parce que regarde, Stéphanie Rist, elle est médecin. Le précédent ministre de la Santé, Yannick Noder, François Braun, ils étaient médecins aussi.
Oui, mais
donc
ils ont évolué. Médecins de quoi?
Ils savent ce que c'est que les conditions
à
l'hôpital.
Alain,
le problème, c'est la prise de décision, c'est les crédits c'est d'avoir des plans à long terme pour l'hôpital.
Alors Alain, c'est pire.
C'est l'évaporation du pouvoir politique.
Moi, si demain je m'engage au politique et que je viens d'un hôpital où les gens n'ont pas la clim, où les gens crèvent de 45 degrés et que tu ne fais rien, mais à la fin, je te disais juste un truc. Si au bout d'une semaine tu te rends compte que tu ne fais rien, et ça peut arriver, hein, t'arrives avec plein d'espoir et d'un seul coup tu tombes sur un mur, mais qu'est-ce que tu fais? Mais c'est pas compliqué, t'es ministre, t'as accès à des médias, tu prends ton truc et tu dis putain, on est en train de faire crever nos gens alors que moi je suis médecin, je voudrais les sauver, et c'est tout. T'en as aucun qui dit ça.
J'adorerais que ça fonctionne.
Chaud, je suis bien chaud, frais, moi j'ai de la clim.
En réalité, le pouvoir politique s'est évaporé. Il n'y a plus moyen de faire quoi que ce soit. Et je ne pense pas qu'ils ignorent la réalité. C'est juste que le mammouth administratif, le manque de moyens, les juges qui vont sanctionner le texte, machin, on ne peut plus rien faire. On est bloqué. Et donc, je pense qu'il y en a qui ont de la bonne volonté, mais qu'en fait, notre pays n'est pas réformable.
Alors moi, je suis d'accord avec toi. Alors moi, je pourrais être d'accord avec toi sur un seul sujet. Sauf que ces gens-là, à un moment donné, se retrouvent avec une majorité, et Macron le premier, une majorité impressionnante. Rappelle-toi son premier mandat.
En 2017.
Il n'a rien fait. Moi, je suis désolé. désolé. Si t'es médecin, et à un moment donné, il avait pris comme médecin un urgentiste, hein, comme ministre, je sais plus lequel.
C'était François Braun.
François Braun. Qu'est-ce qu'il a fait?
Au CHU de Metz.
Je suis désolé pour moi, mais tu sais qu'il y a eu.
Pourquoi ils ont pas fait des projets de loi?
Non, mais il y a eu une dizaine de ministres de la Santé depuis qu'Emmanuel Macron est au pouvoir. Donc en plus, tu nommes des gens qui, à peine installés, vont devoir partir. Enfin, tout ça n'a pas de sens. Ce qui fait que c'est l'administration qui gouverne. Et l'administration, son intérêt, c'est que les choses ne bougent pas. Parce que finalement, c'est comme ça que
c'est pas au ministre de mettre de la climatisation dans l'hôpital de Dunkerque.
C'est
au directeur de l'hôpital de Dunkerque de dire là, on a un problème.
Mais non, mais il faut faire des lois. Il faut faire des lois aussi.
On a légiféré
pour changer.
On a Patrick qui nous appelle de l'Aude, qui est technicien. Bonjour Patrick.
Ouais, salut Gégé, ça va?
Au quotidien, comment ça va pour vous, Patrick?
Ben, là, nous, on a passé le plus dur, je pense, pour cette troisième canicule. On a de nouveau des températures un peu plus raisonnables depuis hier. Mais par contre, ouais, le début de semaine et jusqu'à hier après-midi, ça a été l'horreur, quoi.
Vous aviez combien?
Dans le hangar où je travaille, on a dépassé 50 degrés, quoi.
50, ah ouais.
C'est un toit en fibro, je sais pas.
Et
quoi,
comment vous organisez alors dans ce cas-là?
Il n'y a pas eu de modification de travail.
Pas les horaires quand même, on ne vous a pas fait travailler plus tôt, quitte à finir plus tôt.
En fait, nous les mois d'été, c'est des mois compliqués parce que c'est là où on a le plus gros flux. Mais je pense que, hormis l'aménagement des horaires de travail, on ne pourra pas faire grand-chose.
Non, mais déjà, l'aménagement des horaires de travail, ça me paraît évident.
Patrick, vous êtes dans quel secteur d'activité?
Alors en fait, je contrôle les chronotachygraphes et des éthylotests dans les bus et les camions.
Ah, ok, d'accord. Okay.
Donc, on est obligé de contrôler des véhicules dans des zones sécurisées, donc dans un hangar, pour le coup. On les fait rouler dans le hangar, donc ce qui en plus fait monter la température du hangar.
Oui, avec le moteur, bien sûr.
Voilà. Et c'est un hangar en métal avec un toit en fibro.
Mais vous ne pouvez pas arrêter l'activité? Pourquoi ne pas arrêter l'activité pendant 4-5 jours?
Il fait chaud.
Allez-y, Patrick.
Si vous voulez, tout ce qui est bus scolaire est arrêté pendant la période d'été.
Oui.
Donc, pour nous, c'est à ce moment-là qu'on fait les contrôles et qu'on réétalonne les véhicules. Donc on a un gros flou à ce moment-là, quoi.
D'accord. Mais la solution, Alain, c'est pas que la France se mette au chômage parce qu'il fait chaud, puisqu'il va faire chaud tout le temps maintenant. Donc il faut vivre avec cette chaleur. Il y a plein de pays qui vivent avec de fortes chaleurs et qui travaillent et qui parfois même ont plus d'activité que chez nous aujourd'hui. Donc il faut s'y habiter, mais il va falloir adapter le pays. Et ce qu'on reproche à ceux qui en ce moment avec leur dossier bleu marqué fait chaud se réunissent,
le plan fait chaud,
et la c'est l'adaptation elle n'est pas suffisante. En plus, on a perdu tellement de temps. Ça fait 15 jours qu'on débat clim, pas clim. Enfin, c'est des pertes de temps. Mais on sait bien que la clim, ça va être l'une des solutions. Mais on est là à dire, mais non, parce que vous comprenez la clim. Voilà, il faut aller plus vite.
Les questions, elles se sont... En fait, là, moi, ils me font bien rire. Mais ils sont en train... Moi, j'aimerais bien qu'ils se posent la question. Où sont passés les 69 milliards qui étaient dédiés à l'adaptation, justement?
Il faut reconnaître que dans les EHPAD, il y a eu moins de morts.
Oui. Il y a des salles réfrigérées.
On voit quand même qu'on a pris conscience de certaines choses. Maintenant, on va en parler dans un instant, c'est les morts à domicile. Mais ça, les morts à domicile, le gouvernement, il va pas s'occuper de toutes les personnes qui sont seules, si tu veux amender.
Patrick, je vous remercie d'avoir été avec nous dans les GG. Bonne journée, Patrick.
Bon,
merci. On est climatisés. Nous, c'est surtout à vous.
On a presque frais.
Nous, on est bien ici.
Alors, on a posé la question, est-ce qu'elle est en train de gâcher votre week-end du 14 juillet, la canicule, oui ou non? Vous dites non quand même à 71%. Justement, pour continuer de parler de cette canicule, on va s'intéresser aux morts à domicile, ou plutôt aux seniors, aux personnes isolées, aux personnes qui sont seules, qui vivent parfois dans des petits appartements, qui sont discrètes, qui ne veulent pas faire parler d'elles, pas faire de soucis. Vous savez, je ne veux pas vous gêner. Est-ce qu'on est suffisamment vigilant vis-à-vis des personnes âgées, isolées? 32-16 pour en parler avec les grandes gueules, il est 10h20.
RMC. Alain Marchal, Olivier Truchot. Les grandes gueules. 1, 2, 3, 4.
Vous êtes avec les GG, avec les grandes gueules en direct sur RMC, RMC Story. Vous prenez la parole au 32-16, Laurent Barton-Martinez, la sophrologue et des nôtres, avec Bruno Poncet, le cheminot de Vierzon, et puis Antoine Diers, le consultant juridique. Si on continue de parler de la canicule, ou plutôt la manière, parce que c'est bien beau, on critique le gouvernement, on doit attendre beaucoup de choses, mais puis après, il y a ce qu'on peut faire nous-mêmes. C'est-à-dire regarder tout simplement à côté de qui on vit. S'il y a des personnes seules, des personnes isolées, des personnes qui vivent au dernier étage, sous les toits, qui ne vont pas bien. Et ça, c'est de notre responsabilité. Est-ce qu'on s'occupe suffisamment de nos aînés, des personnes isolées? 32-16 pour en parler avec les grandes gueules.
Bah, on a déjà les premiers bilans de la deuxième canicule, celle qu'on a vécue fin juin, et qui montre une hausse particulièrement marquée des décès à domicile. Environ 2025 décès supplémentaires ont été enregistrés sur une semaine, entre le 22 et le 28 juin. Les décès à domicile ont augmenté de 91% cette semaine-là, et on voit en fait que on a réussi à sauver les meubles, si j'ose dire, dans les maisons de retraite, les EHPAD. En revanche, les morts à domicile, ce sont souvent des personnes âgées, personnes fragiles, personnes isolées. Ça augmente. C'est une préoccupation du ministère de la Santé. Je pense que c'est une préoccupation collective, parce que là, le gouvernement ne pourra pas sauver toutes les personnes âgées ou les gens à domicile. Il va falloir aussi que on se pose la question, pourquoi autant de gens vivent seuls et sont laissés un peu face à elles-mêmes?
Antoine?
Dans un pays qui vieillit, ça ne va pas s'arranger.
Effectivement, tu l'as dit, dans les établissements, les EHPAD, etc., ça se passe bien. Maintenant, nos aînés sont hyper surveillés, accompagnés.
Ventilés.
Mais effectivement, il y a le cas de celui qui reste seul chez lui. Et en même temps, il a peut-être choisi de rester seul chez lui.
Oui.
Il y en a plein qui disent, je veux pas aller dans un
établissement. Mais c'est même d'ailleurs encouragé, le maintien à domicile jusqu'au bout.
J'ai du mal à évaluer si la surmortalité est si significative que ça. Tu as évoqué 2500 décès de plus.
Oui, parce qu'on n'a pas les chiffres définitifs.
Est-ce que, voilà, si c'est 10-20%, bah oui, il fait plus chaud, tu as plus de mortalité. Il faudrait qu'on arrive à voir quel est le niveau de surmortalité. Si c'est très très net, on se dira qu'on a un problème. Mais pour l'instant, moi, je ne vois pas encore le sujet.
Donc il y a rien à pas de problème. Circuler, rien à voir.
Bah, oui, non, mais t'as des gens qui vivent seuls chez eux. Pardon, on peut.
Non,
on
c'est
peut
pas tous... le fait de vivre seul chez toi. C'est d'être isolé.
C'est
tu peux
ça.
Tu peux vivre seul chez toi, mais être entouré, des gens viennent te voir.
On va demander
voisins,
au postier de sonner à chaque fois et de.
Non, pas forcément.
C'est ce qui se fait en fait.
À la campagne, ça c'est.
Ah ben c'est même faire partie des tâches des.
Après le postier, malheureusement,
je te donne un exemple.
C'est un service payant.
Un exemple tout ça. Non, mais il y a aussi ne pas être individualiste. Je te donne un exemple tout simple, ma grand-mère qui, bon, maintenant a 93 ans et on l'a rapatriée, elle vit chez mes parents. Mais pendant un moment, elle a vécu vraiment toute seule, plus d'amis à la maison, enfin, elle avait plus sa voisine, etc. Ça a duré un an et demi. Eh bien, un jour, son voisin n'a pas vu les volets s'ouvrir. Premier réflexe que le voisin a eu, il m'a appelé, Laura, donne-moi le code d'entrée pour aller chez ta grand-mère, c'est pas ouvert. Ne t'inquiète pas, elle est à la maison.
Elle est à Ibiza. Donc,
non, mais c'est tout simple. C'est tout simple. Ça va être, moi, j'ai, là où j'habite, c'est une petite copropriété, et il y a une petite fille qui a 18 mois avec ses parents.
Tout le monde regarde, ouais.
Qui vit, ils sont sous les combles. Donc, je me doute que ça doit pas être évident avec un bébé 18 mois à la maison. Déjà, pour nous adultes, c'est compliqué. Bon, bah, moi, j'ai mis une petite piscine à ma fille, un truc que j'ai acheté, 20 balles, juste pour se trempouiller les pieds. Premier réflexe, quand j'ai vu la maman avec sa petite fille, je lui ai dit, vous venez quand vous voulez tremper la petite dans l'eau, je l'ai traitée, il n'y a pas de souci. C'est juste, voilà, des petits gestes du quotidien. J'ai une voisine.
Donc, n'attendons pas le plan hors sec canicule.
Voilà.
Oui, mais moi,
à l'époque, tout le monde connaissait ses voisins.
Faire des plans, mais peut-être que chacun doit être peut-être un peu regarder plus les autres.
À l'époque, tout le monde connaissait ses voisins. Tu connaissais toujours la voisine du dessus, la voisine du dessous. Tu allais te dépanner du sel.
Il y avait les gardiens,
etc. Il y avait plein de. Il y avait une entraide et il y avait.
C'est sûr que dans les immeubles où il y a encore des gardiennes ou des gardiens.
Quand tu vois pas ta voisine descendre depuis plusieurs jours, tu montes, tu fais toc-toc. Et voilà. Moi, c'est juste. Mais de manière générale, apprenez juste à connaître vos voisins et ne pas avoir peur de juste savoir si
notamment
ça va bien.
Si c'est les personnes âgées.
Et ça, mais ça va pour plein de sujets. Quand tu connais ta voisine et que tu la vois avec un œil au bornard trois fois de suite, va toquer chez ta voisine, demande-lui si tout se passe bien.
Bruno,
moi, je ne comprends pas pourquoi les EHPAD existent. C'est-à-dire qu'en fait, moi, je ne comprends pas pourquoi on abandonne nos vieux dans des EHPAD.
On les abandonne pas, c'est parce que parfois la prise en charge est.
Excuse-moi, Olivier. Parle à des gens qui travaillent dans les EHPAD, ils vont t'expliquer comment ça se passe. Moi, je suis des amis qui travaillent dans les EHPAD et je peux te garantir, j'ai un de mon meilleur ami qui travaille dans un EHPAD où ma grand-mère est décédée, malheureusement. Parce que moi, je suis obligé de la mettre dans un truc médicalisé à la fin parce qu'elle était.
C'est vraiment ça.
Mais t'as pas que ça.
En fait, c'est pour ta fin de vie, l'EHPAD. Hein.
Ouais,
je crois que la durée de vie dans un EHPAD, c'est 6 mois.
Tu sais, moi, ma grand-mère, j'étais pas vieux, je suis retourné vivre avec elle, j'avais 18 ans, elle m'avait dit, je veux surtout pas finir. Alors, chez nous, ça s'appelait Lanou à l'époque. Je veux surtout pas finir Lanou. Je l'ai maintenu au maximum à domicile chez moi. Il y a une dette qui venait et tout, elle avait Alzheimer. Maximum à domicile, c'était un enfer. Moi, j'avais 25 ans, j'étais pas capable de faire gérer une grand-mère. Faut être sérieux. Et ben, tu vois, elle est partie là-bas, un an plus tard, elle est morte. Moi, je trouve, je ne comprends pas pourquoi les EHPAD. En fait, moi, je l'ai dit ici, je le redis, on abandonne nos vieux. On s'occupe mal de nos enfants. Et aujourd'hui, on abandonne nos vieux. En règle générale, et c'est comme ça, on peut dire ce qu'on veut. T'as beaucoup, je sais pas si tu te souviens, dans les années 60, allez, peut-être jusqu'au début 70, à partir du moment qu'après, il y a eu des histoires de pavillons, machin et tout, où tout le monde a voulu sa maison individuelle. Et individuelle, c'est bien le mot. Ouais. En fait, on a laissé nos vieux à partir de ce moment-là. C'est-à-dire que celui, le petit vieux qui pouvait rester chez lui le plus longtemps possible, il avait sa maison, ça allait. Et puis après, tu le prenais, tu l'emmenais à l'EHPAD ou à la maison de retraite. Ouais. Et puis, salut, à bientôt. Et puis, t'es parti, tu repartais, et puis un jour, tu reçois un coup de téléphone, comme moi, ça m'est arrivé. Vous pouvez venir parce que votre grand-mère, c'est la fin. Voilà. C'est comme ça que ça se passe. Et moi, je trouve que, il faudrait, alors, comme il faut peut-être végétaliser les toits, faut faire un tas de trucs, remettre du lierre sur les maisons, eh ben, faut peut-être se dire qu'à un moment donné, dans chez toi, quand t'as une chambre où t'avais tes enfants avant,
ouais, tu étais chez toi. Aujourd'hui, t'as plus de place chez toi.
Bah si, t'avais une chambre pour tes enfants.
Oui.
Bah, la chambre de tes enfants, au lieu d'en faire un bureau de télétravail, peut-être que tu peux dire à ta grand-mère, à ton grand-père de finir sa vie chez lui, s'il est encore en état de vivre de quelque part. Mmh. Effectivement, c'est ton grand-père qui se lève quand t'es pas là.
Alzheimer, c'est gaz. Compliqué, par exemple.
Bah, moi, ma grand-mère, c'était un truc, enfin, je peux pas raconter ce que j'ai vécu
aidant
ici, mais.
Aidant et soignant, c'est deux choses différentes. Tant que tu peux être aidant, moi, je vois, bon, j'ai une grand, on a rapatrié les deux dans notre ville. Moi, je voulais avoir mes deux grand-mères sous la main pour qu'ils, au cas où il se passe quoi que ce soit. Il y en a une qui a 78. C'est même pas qu'elle est indépendante, c'est qu'elle ne veut pas qu'on on veut qu'on lui foute la paix.
Ah oui.
Donc j'y vais, je lui fais ses cours, je lui promène son chien, je l'emmène chez le médecin, etc. Et l'autre, elle est venue passer 6 mois à la maison et on a vu les examens de santé devenir miraculeusement s'améliorer, etc. Elle avait 90 ans, tu te dis putain, ça s'améliore, bonne nouvelle.
Tu sais,
et ben mes parents, ils se sont complètement adaptés. Ils ont dit à ma grand-mère, on peut pas financièrement supporter une troisième personne et la taille de la maison qui va avec. Ben on te prend un peu de ta retraite. Tu viens à la maison et en fait comme une coloc. Mais ma grand-mère, les deux, tant qu'on peut s'en occuper, et c'est la différence, tant que tu peux être aidant ou que tu peux tenir avec des aides à la maison, etc., évidemment qu'il faut le faire. Pour moi, c'est honteux d'abandonner ses aînés.
Il faut aussi parler des aidants. L'autre fois, j'ai rencontré une fan des GG, qui s'appelle Corinne, elle est aidante. C'est-à-dire qu'après sa retraite, elle est obligée de s'occuper de son mari qui a fait un grave AVC. Et en fait, elle m'expliquait que quand t'es aidant, et aidant donc familial, c'est ton mari ou ta femme, c'est la double peine. C'est-à-dire qu'en fait, elle, ce qu'elle demanderait juste, c'est de temps en temps avoir quelqu'un qui vienne une semaine, qu'elle puisse partir en congé ou quoi que ce soit pour la remplacer. Parce qu'en fait, quand t'es aidant, c'est 365 jours et c'est
Et donc, en fait. C'est un statut des aidants.
Ouais, mais voilà, parce qu'en fait, ce qu'il faut.
Même un revenu.
C'est qu'au lieu de créer, de donner peut-être des subventions à des EHPAD, tout ça, ben, c'est plutôt à mettre de service à la personne de comme moi, quand
mon père avait. Quand vous posez la question. Personne n'a envie de finir dans un EHPAD.
On a Kamel qui est avec nous, Kamel du côté des Hauts-de-Seine, Villeneuve-la-Garenne. Bonjour Kamel.
Bonjour, enchanté.
Salut Kamel. Est-ce qu'on fait suffisamment attention aux personnes âgées, aux personnes isolées autour de nous? Dites-moi Kamel.
Non, mais très simplement, j'ai 50 ans, moi je suis papa de 7 enfants et je suis aidant avec mon père qui a aujourd'hui 99 ans. Et ma maman est partie il y a un an, donc j'ai fait le choix aujourd'hui à l'encontre de mon ex-épouse de m'occuper de mon père. Et aujourd'hui, je peux vous assurer que c'est le travail des dents, c'est un vrai sujet. 80% des handicaps sont des handicaps invisibles. Moi, mon père, aujourd'hui, je m'en occupe tous les jours et c'est une grande fierté avec mes activités parce que j'entraîne aussi dans un club au Paris FC dans la section handi-foot. Et tous les jours, on a mis en place avec le CCAS des repas pour mon père, une femme de ménage qui vient.
Il y a l'organisation.
Tout à fait, il faut savoir aussi
qu'une grande partie,
23% des personnes en situation de handicap ou bien seniors ne veulent pas aller en EHPAD et ne veulent pas se déclarer parce qu'ils ont peur d'être à l'hôpital et de jamais plus revenir. C'est une vraie réalité, un vrai sujet aujourd'hui.
Surtout quand ils vont à l'hôpital, souvent ils n'en reviennent pas. Ils en meurent très rapidement.
Allez-y, ouais.
Moi, ce que je souligne, parce que je suis aussi élu à la ville de Deuil-la-Barre en 95, on a trouvé un système qui est vraiment révolutionnaire. Il y a dans les quartiers populaires, il y a du très positif, et je voudrais le signaler. On a, si vous voulez, vu dans la tour combien de personnes étaient âgées et ne sortaient pas. Il faut savoir qu'il y a des personnes qui ne sortent pas pendant voire 1, 2, 3, 4 ans, qui ne sortent pas de chez eux. Ouais. Et on a décidé de responsabiliser ces jeunes des quartiers populaires en disant voilà, vous allez répertorier toutes ces personnes âgées qui ne sortent pas, et vous allez vous en occuper. Donc aujourd'hui, on leur ramène de l'eau, on leur ramène des ventilateurs, on leur ramène des climatiseurs et on s'en occupe parce que c'est important. Vous savez, on est
accompagné l'humanité surtout. l'accompagner de l'humanité.
Félicitations, Kamel, bravo, là, avec ce que vous avez mis en place, là, les espèces de veilles et de maraudes avec les jeunes. Bravo, félicitations.
Bah, ça, c'est l'initiative de notre maire, Muriel Scolan, la maire de Deuil-la-Barre. Donc, je l'accompagne. C'est la première fois que je m'engage politiquement. Vous savez, on n'est que passage dans leur vie. On va tous finir entre six planches. C'est cru ce que je dis. Mais si on peut apporter de bonheur, si on peut apporter un peu de bonheur à des personnes en situation de handicap, en précarité ou âgées, bah, il faut le faire. Parce qu'on n'est que passage sur Terre. Et sincèrement, aujourd'hui, d'être aux côtés de mon père, ça vaut tout l'or du monde. Ça m'a coûté un divorce, c'est pas grave, parce que j'ai toujours mis mon père et ma mère au-dessus de tout, et je les mets au-dessus de ma femme. Et aujourd'hui, je le regrette pas. C'est vrai que je vois pas mes enfants tous les jours, mais je suis fier d'être à mes côtés de mon père. Je sais pas qui partira en vent. Je vous en parle avec beaucoup d'émotion parce que j'aime mon père et j'aime ma mère. Et aujourd'hui, j'accompagne mon père avec beaucoup de fierté. Et voilà, je suis désolé aussi pour mes enfants parce que je voulais être aussi proche d'eux. Mais c'est vrai que mon père était tout pour moi et il restera tout pour moi jusqu'à la fin de ses jours.
Oui, mais vous leur donnez un très bel exemple et félicitations, oui, honnêtement, clair. Du fond du cœur.
Kamel, merci de votre témoignage, Kamel. Merci d'avoir été avec nous. Ça vous fait beaucoup, beaucoup réagir, cette histoire justement de la manière dont on laisse tomber, enfin, pas laisser tomber, la manière dont on aujourd'hui
on met de côté,
il y a la famille. Kamel, il nous parlait de sa famille, de ce que la municipalité avait mis en place aussi pour les jeunes, mais en fait, c'est aujourd'hui, on ne fait plus attention à l'autre. Tu vois, à ce qui se passe dans son immeuble, à ce qui se
passe de manière globale.
Sur son pâté de maison, alors qu'avant, comme tu le disais, tout le monde connaissait tout le monde, on savait comment on vivait, qui étaient les personnes isolées, qui étaient les personnes seules. Alors, avec la canicule, est-ce qu'on arrive à bien s'occuper de nos aînés et puis des personnes seules, même si on ne les connaît pas forcément? 32-16 pour en discuter avec les GG. Dans un instant, on a Michel, il est kiné libéral, lui aussi, il est dans ses tournées en tant que kiné libéral.
Il sait, il
voit
les gens,
voilà, il a un œil vigilant. Vous venez en parler avec nous au 32-16, il est 11h25.
RMC jusqu'à midi.
Les grandes gueules.
RMC, midi 14h,
Estelle Midi.
On se retrouve à midi avec Fred Hermel, Yaël Mellul, Benjamin Hamar autour de la table. On va parler de la canicule. Faut-il modifier toute notre organisation pour les entreprises, les écoles, les administrations? Passer à la journée de travail de 6h30 à 13h30, vous nous le dites. Au 32-16, on parlera aussi des profs. Le ministre assure qu'il y en aura assez à la rentrée, mais est-ce que le métier d'enseignant fait toujours rêver? Vous témoignez au 32-16. Et puis on va parler vacances, ambiance, prix, confort. Les vacances au camping sont-elles les meilleures vacances? J'attends vos témoignages au 32-7.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
Vous réagissez avec les grandes gueules au 32-16. De quoi parle-t-on? Des effets de la canicule, ou plutôt de la manière dont cette canicule nous oblige aussi à nous tourner vers les autres, à regarder ce qui se passe dans notre appartement, à regarder ce qui se passe dans la maison d'à côté, dans la rue. Non, pas pour surveiller, mais simplement pour veiller à ce que tout le monde aille bien. En fait, c'est une espèce de voisin vigilant. C'est Michel qui est avec nous. Bonjour Michel.
C'est une grande émission.
Bonjour les grandes gueules.
Michel, bonjour, qui est kiné libéral. Qu'est-ce que vous en dites, Michel? Vous, est-ce que vous arrivez à faire attention aux autres?
Oui, je crois. Moi, je suis kiné libéral. Je ne fais plus que du domicile depuis le Covid.
Oui.
Et en fait, là, je suis dans les campagnes. Je travaille du côté de Marciac, dans le Gers. Et en fait, je voulais juste témoigner pour dire que, en fait, tout autour de nos anciens, en fait, il y a des réseaux qui se mettent en route. Vous savez, il y a les familles, bien sûr. Il y a les voisins. Il y a les kinés. Il y a les infirmières. Il y a les amis, il y a le maire du village, enfin, ils sont pas tout seuls. Et en fait, moi, je voulais juste témoigner de la solidarité, la vraie solidarité qu'il y a autour de ces personnes.
Mais est-ce que cette solidarité, elle n'est pas plus présente quand on est comme vous à la campagne, dans les petits villages, plus qu'en ville, Michel? Qu'est-ce que vous en dites?
C'est possible. J'ai travaillé beaucoup en ville aussi. Oui, je crois quand même qu'il y a encore cette mentalité de vouloir aider son prochain. Je crois que oui, effectivement.
Et surtout parce qu'on connaît, dans un village, on connaît les familles, etc. Dans une ville, c'est anonyme. On ne sait pas qui vit dans notre immeuble.
Certainement, mais je voulais dire aussi quand même que voilà, il y a la partie des villes, ça c'est sûr, mais il n'y a pas que les villes, quoi. Il y a beaucoup de Français qui habitent dans les villages, même très retirés. Et cette solidarité, moi je la vois au quotidien, et voilà, quoi. Moi je voulais juste amener un point positif, signalant que voilà, on est peut-être dans un monde de brut, mais il y a quand même de l'entraide. Voilà.
Bien sûr. Michel, vous êtes d'origine belge ou pas?
Hein, un peu.
Oui.
L'accent, je n'osais pas demander, Lidon.
D'accord, toi, on se demandait quand même.
J'ai pu m'expatrier il y a 20 ans, je suis dans le plus beau pays du monde.
Alors, le Gers. Eh bien, dites-moi, ce soir, Belgique-Espagne, alors.
Écoutez, moi, je croyais que ça faisait déjà au moins 3 matchs que les Belges n'y seraient plus. Ils sont toujours là. Voilà, mais bon, le problème, c'est que si jamais ils passent, ils tombent contre la France et ils perdent toujours contre la France.
C'est pour ça, il faudrait qu'ils passent.
Merci, Michel, d'avoir été avec nous.
Merci à vous.
Bonne tournée. Merci de veiller toi, sur les voisins.
Antoine, tu connais tout le monde dans ton immeuble.
Mais oui. En fait, je vis en plein centre-ville de Dunkerque et on connaît tout le monde.
Il fait des patrouilles le soir. Toc, toc. Tout va bien? Dormez tranquille, bonne journée.
Rien à signaler.
Non, mais tiens,
bon pire.
J'ai acheté cet appartement en 2015. Mes voisins n'ont pas bougé. On se connaît tous. Et effectivement, moi, je ne vis pas le côté solitude dans l'immeuble parce que on se connaît et on n'hésiterait pas à toquer à la porte l'un de l'autre. Donc, je pense que c'est un truc très parisien. Encore le côté
anonyme.
On se parle pas anonyme.
On fait la gueule même.
Dans les villes moyennes, je connais tous mes voisins, y compris dans l'immeuble d'à côté, d'en face. On se salue. Le petit vieux, il est sorti avec son chien. On voit les mêmes tous les jours. Donc c'est vraiment juste un truc de parisien. Et le côté,
je reprends ton exemple, mais ton petit vieux avec le chien, tu te rends compte, ça fait 4 jours que tu l'as pas vu.
Je suis pas son voisin direct, mais effectivement, je peux me dire, je peux demander au commerçant.
Tu vois le chien sortir tout seul.
Petit monsieur.
Là, c'est louche.
Sortir tout seul. Non, mais
avec la main du vieux dans la bouche. Ah, il est mort.
On peut juste s'arrêter sur la qualité de cette émission aujourd'hui et des vannes.
Mais même en connaissant tes voisins, si le vieux il lui arrive un truc dans la nuit, c'est tout, il sera mort chez lui. Je veux dire, si c'est comme ça.
Oui, non, j'entends.
Et si on peut éviter de s'en rendre compte au bout de 15 jours avec l'odeur, c'est mieux, je suis d'accord. Mais
On a Delphine qui veut réagir dans les GG, qui est dans le Rhône du côté de Saint-Priest. Bonjour Delphine.
Bonjour les GG.
Alors, est-ce qu'on arrive à... Merci Delphine. Est-ce qu'on arrive à être suffisamment présent auprès de nos anciens, auprès même des gens que l'on ne connaît pas, Delphine, dites-moi.
Peut-être pas autant qu'on aimerait. Quand on a une vie, un travail, on peut pas être aidant à 100%, c'est pas possible. Moi, j'aimerais être plus présente pour ma grand-mère. Je sais que à chaque canicule, à chaque fois, je me dis c'est peut-être ces derniers jours, quoi. On a eu le cas sur la deuxième canicule là, en juin. On a eu très chaud à Lyon, peut-être pas aussi chaud qu'à Paris, mais on a eu très chaud à Lyon. Et il y a un jour où on a eu très très peur, on s'est dit c'est bon, c'est la fin. Et en fait, on s'est aperçu que ma grand-mère, donc elle a Alzheimer, 93 ans à la maison, elle vit toute seule. Et à partir du moment où il n'y a personne chez elle, elle ne boit pas et elle ne mange pas.
Ouais,
et donc pendant la canicule, on s'est aperçu que le verre laissé par l'auxiliaire de vie du midi était le même que celui où l'auxiliaire de vie passait le soir à 19h. Il n'avait pas bougé, quoi. Donc voilà. Donc on a mis en place une organisation avec ma tante, parce qu'on n'est que deux sur Lyon à pouvoir s'occuper d'elle. Et voilà, et on essaye de faire en sorte qu'elle boive, elle mange. C'est très dur. Et là,
et quand les vacances arrivent, alors, parce que c'est ça aussi, vous arrivez à mettre en place une rotation, parce que le problème aujourd'hui, je me souviens du témoignage qu'on avait eu, je crois que c'était l'été dernier ou l'été d'avant, d'une infirmière en hôpital qui disait, moi, c'est marrant, juste avant les vacances, je vois des gens qui déposent des personnes âgées aux urgences, elle va pas bien, et derrière, on se retrouve à faire EHPAD, quoi, en fait, à l'hôpital,
en fait,
quoi, Delphine.
On y a pensé, nous, hein. On y a pensé parce que justement, il y a eu un week-end où moi, je devais partir. J'ai pas eu le choix de partir pendant 3 jours. Et ma tante, à la base, devait partir aussi. Et on s'est dit, mais en fait, elle serait au moins à l'hôpital. On est sûr qu'elle boive et qu'elle mange, quoi. Et puis finalement, bon, j'ai appelé SAMU. Le SAMU, il m'a dit, non, mais de toute façon, elle risque d'être sur un lit au milieu d'un couloir. Donc, voyez comment on pouvait faire. Et puis finalement, on a écourté chacune de notre côté et on s'occupait de notre grand-mère. Mais oui, là je vais partir en vacances. Je vais pas annuler mes vacances. J'ai moi-même ma vie de famille, j'ai un enfant.
Bien sûr.
Et Et voilà. Donc après, bah, on fait au mieux. On a réussi avec les auxiliaires de vie à mettre en place quand même quelque chose pour être sûr quand même qu'il y ait un peu d'hydratation. Parce qu'en plus, voilà, on avait vu avec l'infirmière pour qu'elle ait une perfusion la journée. Mais ma grand-mère, Alzheimer, la perfusion, elle la garde pas. Elle l'arrache.
C'est pour ça que, souvenez-vous qu'il y avait normalement un plan qui était prévu, qui était le plan.
Attends, encore
c'était
un plan.
Quoi, c'était quatrième âge, c'était quoi?
Le plan soit pas seul.
Le plan fait chaud. Oui, mais dans une société effectivement qui va être où on va vieillir, où on va être de plus en plus âgé, où on risque d'être de plus en plus dépendant avec des familles.
Les robots,
les robots
de service
pas possible,
pour nous
tu as raison.
Bah, les robots vont nous aider. Ça peut paraître.
Moi, j'ai vu des films où les robots à la fin ils butent les vieux et puis ils prennent le pouvoir.
Arrête de regarder des films.
Non mais arrêtez.
La canicule relève aussi un autre sujet. C'est justement le timing des aidants. Je vous donne un exemple. Ma maman, elle a une amie qui, là, la canicule est en train, entre guillemets, de la tuer, mais par un autre biais. C'est-à-dire que cette dame-là, elle a, vous savez, les lunettes respiratoires, oui. Les petits trucs qu'on met dans le nez. Et ça, normalement, ça doit être nettoyé au minimum une fois par jour. Et en période de canicule, avec la chaleur, ça doit être nettoyé plusieurs fois par jour.
Et il n'y a pas d'infirmière, non?
Elle a des soignants qui viennent trois fois dans la journée. Mais quand un aidant doit, en 25 minutes, vous faire à manger, débarrasser la table, vous laver, vous emmener aux toilettes, à un moment donné, tout est prioritaire. Ils n'ont pas le temps. Donc, souvent, le truc est passé à l'as. Ben, cette dame-là est en train malheureusement de décéder parce qu'elle a développé une surinfection, parce que les choses n'ont pas été faites correctement et on ne peut en vouloir à personne. En fait, les moments de crise viennent.
C'est la vieillesse, mais en même temps, normalement, il doit y avoir une personne à domicile ou quelqu'un.
Mais ce que je veux dire, c'est que les crises, là, c'est toujours passé, sauf que comme il fait extrêmement bien chaud, sûr. Les bactéries se multiplient deux fois plus. C'est en fait.
Les crises
viennent juste révéler les défaillances qui sont là.
Delphine, je vous remercie d'avoir été avec nous. Delphine,
merci.
Vous voulez ajouter quelque chose? Pardon, non, je vous ai coupé peut-être. Non,
pas du tout, mais c'était par rapport à ça. Nous, les temps d'auxiliaire, ils ne sont pas assez longs. En ce moment, on sent que c'est sur l'hygiène ou c'est sur l'appartement où on va être obligé de pallier. Parce que les auxiliaires vont être un peu plus à essayer d'hydrater, un peu plus. Et on voit qu'à côté, il y a des choses qui ne sont pas faites. Et en effet, il n'y a pas assez de temps. Il n'y a pas assez de temps de passage.
Exactement.
Voilà. Merci, Delphine. Merci d'avoir été avec nous. On va terminer avec Christelle du côté de la Loire-Atlantique. Bonjour Christelle.
Bonjour, mes rayons de soleil.
Aidante familiale.
Non, c'est sympa ça.
Mes rayons de soleil du matin.
C'est gentil, merci.
C'est gentil. Comment vous faites en ce moment, alors justement, auprès de votre famille ou des gens à côté de chez vous, dites-moi.
Donc moi, je suis aidante. J'ai quitté mon emploi. J'étais en CDD. J'ai 59 ans. Donc j'ai quitté mon emploi pour m'occuper de maman suite à deux AVC.
Oui.
J'ai mis en place une aide à domicile, une heure le matin, une heure le soir, 7 jours sur 7.
Oui.
Bon, c'est vraiment des aidants super. Hein. Moi, je leur tire mon chapeau. Excusez-moi, je suis très émue là.
Non,
votre maman, qu'est-ce qu'elle a? C'est-à-dire qu'elle ne peut plus vivre seule. Il faut être avec elle 24 heures sur 24.
C'est alité, fauteuil roulant, incontinente, fouchouillée à manger.
Mais vous avez tout abandonné? Vous ne travaillez plus pour vous en occuper?
Non, je ne travaille plus. Donc, je suis en fin d'allocation. Chômage, donc j'ai 512 euros. J'ai gardé mon appartement parce que je pensais pas vivre tout le temps avec maman. Je pensais pas que ça allait s'aggraver autant, que ça allait être de plus en plus difficile.
Mais vous vivez comment alors? Parce que finalement vous avez peu de ressources maintenant.
Je vis avec je paye déjà mes charges, ouais. Et puis avec la retraite de maman on fait, et puis moi, je fais des cours, je fais tout, le ménage, tout. Je suis présente, en plus avec la chaleur, là, je donne à boire quotidiennement.
Mais justement, elle est en appartement, votre mère?
Non, on est en maison.
En maison, et ça va, la chaleur est supportable dans la maison?
Oui, je fais en sorte, hein, je l'hydrate beaucoup, j'ai mis des ventilateurs, j'ouvre de bonne heure le matin, je ferme très tôt, là, j'ai fermé.
Et c'est difficile pour elle? Vous le sentez quand même? Ouais,
Oui, je le sens.
Mais du coup, elle ne sort pas, elle ne peut pas sortir.
Ah non, on ne peut pas sortir. Elle parce que l'appartement, il y a des étages, donc elle est en fauteuil, il y a des escaliers, il n'y a rien de pratique. Il n'y a rien de.
Et vous vous sentez un peu seul?
Psychologiquement, c'est compliqué. Parce que des fois, c'est des nuits blanches, parce qu'elle fait de la démence et elle n'arrête pas de répéter 100 fois la même chose. Et elle m'appelle.
Et vous avez du soutien, de l'aide, de quelqu'un d'autre qui peut vous. Oui, mais au-delà des aidants qui viennent une heure par jour.
Est-ce que vous êtes entouré ou est-ce que vous êtes un peu seul avec votre
maman? Voilà, est-ce que vous avez.
Éventuellement, mon fils, quand il a fini de travailler, il passe le soir. Mais autrement, je suis
Christelle, à travers votre témoignage et tous ceux que l'on a entendus.
Et Christelle n'est pas seule, il y a quand même beaucoup de personnes.
On voit la difficulté aujourd'hui d'être auprès de gens qui sont dans cette maladie et cet âge, et Alzheimer notamment. Allez, à tout de suite pour la suite des GG.
RMC, 9h midi, les grandes gueules.